Commentaire avec Jean-Marie Colombani et Jean-Claude Casanova sur Radio Classique.
Bonjour et bienvenue dans Commentaire. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette conversation hebdomadaire qui va porter aujourd'hui sur les conséquences et les suites de la réforme des retraites et des protestations qui vont avec, et sur un peu la façon dont le paysage politique évolue et surtout aussi le paysage syndical, puisque Laurent Berger, le patron de la CFDT, vient d'annoncer son départ pour le 21 juin et son remplacement par une femme d'ailleurs. Donc ce sera une femme à la tête de la CFDT, une femme à la tête de la CGT, une femme présidente de l'Assemblée nationale, une femme Premier ministre, et donc c'est la preuve que la France bouge, la France évolue, et pas dans un sens nécessairement conservateur. Nous avons avec nous pour discuter de tout cela Gérard Grimbert. Bonjour Gérard.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Gérard Grimbert est directeur du site Telos et directeur de recherche émérite au CNRS. Donc avec lui, nous allons essayer de brosser un petit peu tout ou partie du paysage national. Gérard Grimbert, avant toute chose, on a décrit cette période comme, au fond, une période de réhabilitation par lui-même du syndicalisme. Les syndicats qui étaient, au fond, mêlés peut-être un petit peu au désamour qu'ont les Français vis-à-vis de ceux qui les représentent, ont reconquis l'adhésion de l'opinion, d'une part, ont réinstallé leur place dans le débat public, au point d'ailleurs qu'on parle désormais de démocratie sociale, que l'on oppose souvent peut-être à tort à la démocratie tout court, à la démocratie représentative. Et au cœur de cette reconquête, il y a eu la personnalité et le rôle de Laurent Berger. Alors comment regardez-vous cela, Gérard Grimbert ?
Ben, il est évident que cette crise a permis aux syndicats de reprendre un peu la direction du mouvement, de ce qu'on appelle le mouvement social. Maintenant, on a publié là il y a quelques jours sur Telos une étude sur les syndicats et la manière dont les syndicats sont perçus par l'opinion publique française. Et en fait, ils sont assez mal perçus. Ils font partie avec les partis politiques, les réseaux sociaux, je dirais des institutions au sens large qui sont le plus mal perçues par les Français, puisque à peine un tiers d'entre eux font confiance aux syndicats. Donc là, j'ai l'impression qu'à la limite, c'est moins, si vous voulez, c'est moins leur fonction syndicale, j'ai presque envie de dire, que leur fonction politique. Et d'ailleurs, une partie d'entre eux ont joué clairement politiquement contre le pouvoir, profitant du fait que les Français, tout simplement, je ne sais pas s'ils voulaient faire la révolution comme certains intellectuels de gauche le disent, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que les Français n'avaient pas envie de travailler plus, ils l'ont dit dans les sondages, ils n'avaient pas envie de travailler plus, et les syndicats ont pu surfer, je dirais, sur... Alors, ce qui est intéressant et nouveau, ce que vous disiez, c'est sur la CFDT, puisque la CFDT s'était forcée, souvent avec beaucoup de difficultés, d'ailleurs, vu ce qu'est le paysage français depuis longtemps, mais c'était forcée d'être un syndicat réformiste, et le tournant qu'a pris, là, Laurent Berger, en fin de mandat, j'ai envie de dire, est un tournant qui éloigne incontestablement la CFDT de ce qui était son ancrage réformiste.
Jean-Claude Casanova.
Oui, je crois qu'il y a eu un affrontement qui devenait classique en France depuis sous la Ve République, entre d'un côté le pouvoir exécutif, soutenu par le Parlement, et de l'autre côté, les syndicats s'exprimant à la fois par des manifestations et des grèves, et s'exprimant aussi par une espèce de collusion avec l'opinion dans laquelle l'hostilité à la réforme des retraites était présente. Mais le résultat, c'est que, bien entendu, personne ne le dit brutalement, mais je me permettrai de le dire, les syndicats, pour la première fois, pour la troisième fois avec Macron, ont perdu. Macron est le premier président de la République qui ne se laisse pas imposer par la manifestation une décision contraire à celle qu'il a prise et à celle qu'il a obtenue par les voies parlementaires. Si on pense à Chirac et Villepin, où il y avait eu un quasi-effondrement, ou même si on pense à 68, où il y a eu une modification importante de la politique économique qui a été imposée par la manifestation et qui a été imposée au général de Gaulle, c'est-à-dire ce n'est pas rien, eh bien, en l'espèce, pour l'instant, Macron a gagné contre les sondages et contre les manifestations.
Alors, cela renvoie au fond au paysage politique tel qu'il est aujourd'hui, Gérard Grimbert. Là aussi, comment regardez-vous les choses? On voit bien que, pardon de nous répéter peut-être un peu, mais on est dans une situation inédite parce que la droite est dominée par l'extrême droite et parce que la gauche est dominée par l'extrême gauche. Et donc, comment échapper à ce face-à-face, il y a 4 ans pour tenter d'y échapper, et manifestement, Macron n'a plus ni l'écoute, ni l'attention que voudrait une tâche de cette nature. Il semble que les Français ont intégré le fait qu'il ne sera pas de nouveau candidat, puisque la Constitution le lui interdit, et qu'en même temps, il y a un tel désamour, un tel rejet, qu'on ne voit pas comment il pourrait être l'acteur principal de cette, d'essayer justement de rompre cette nouvelle bipolarité, en quelque sorte, Gérard Grimbert.
Oui, mais d'abord, il faut dire, je crois très profondément qu'il y a des analyses de la crise actuelle qui sont fausses. Les analyses qui consistent à dire que c'est d'abord parce que le peuple ne participe pas suffisamment à l'élaboration de la loi, ceux qui disent que la Constitution, j'entends ça de plus en plus, la Constitution de 58 doit être révisée. Moi, je crois que le problème essentiel est lié à deux éléments qui sont d'ailleurs eux-mêmes liés entre eux. Le premier, c'est ce que vous venez de dire, c'est-à-dire la disparition progressive et bien avancée aujourd'hui des deux grands partis de gouvernement qui ont gouverné ce pays depuis des dizaines d'années, voilà, qui ont été effectivement peu à peu phagocytés par une extrême droite qui est de plus en plus forte au niveau électoral. On l'a vu encore avec des sondages ces derniers jours, et on voit effectivement qu'il y a un clivage social entre les électeurs des partis populistes et les électeurs des autres partis. Donc voilà. Donc je crois que il y a d'une part effectivement la disparition des partis de gouvernement, qui laisse d'ailleurs à mon avis une partie des électeurs un peu perdus, je dirais. Et puis d'autre part, à cela s'ajoute le fait qu'il n'y a pas de majorité absolue. Et ça, c'est une chose dont on n'avait pas ou peu l'expérience sous la Ve République, mais c'est un fait absolument fondamental. Pourquoi ? Parce que la Ve République gaullienne en particulier a fonctionné parce que il y avait une possibilité à un moment donné d'avoir des partis de gouvernement qui alternaient au pouvoir. Et aujourd'hui, on est dans une situation, mais qui alternait au pouvoir en étant, c'est ça qu'il faut bien comprendre, en étant dans des alliances à gauche ou à droite. C'est cette fameuse bipolarisation qui permettait quand même, si vous voulez, qui permettait à la gauche d'échapper à des alliances avec la droite et inversement. Aujourd'hui, on est dans une situation tout à fait différente de tripolarisation où les partis doivent se réhabituer à ce qu'est le parlementarisme, se réhabituer à l'idée qu'on peut, à la limite, faire des alliances, faire des compromis avec des partis qui sont pas de leur bord, si tant est encore que ça veuille dire quelque chose, leur bord. J'étais frappé, Le Monde, l'un des titres du Monde hier ou avant-hier, disait actuellement, Macron va courtiser la droite. On dirait pas en Allemagne que le Parti social-démocrate va courtiser le parti libéral avec lequel il gouverne. C'est-à-dire qu'il faut se réapproprier cette idée du parlementarisme. Donc, contrairement à ce que disent la plupart des gens qui analysent la crise actuelle, je crois que c'est bien une crise du parlementarisme, ou même plutôt le fait qu'il faut se réhabituer à ce qu'est le parlementarisme, c'est-à-dire que c'est pas scandaleux de chercher des alliances avec des partis avec lesquels on n'est pas d'accord.
Jean-Claude Casanova.
Il faut chercher une coalition parlementaire, mais en France, le jeu est brouillé, d'une part parce qu'on veut absolument imposer la bipolarité droite-gauche sans admettre que la gauche est hétérogène et que la droite est hétérogène. Et que donc, évidemment, la majorité parlementaire qui se conjuguera sera une majorité parlementaire dans laquelle il y aura une partie de la gauche qui sera exclue et une partie de la droite qui sera exclue. Si on prend le Parlement actuel, il y a le groupe macroniste qui a une aile de gauche, Il y a, pour des raisons mystérieuses qui tiennent à l'ascendant qu'exerce M. Mélenchon et qui a coagulé les écologistes, le Parti Socialiste, les communistes et son propre mouvement, qui donc se mettent carrément dans l'opposition, et il y a une opposition d'extrême droite. Et inévitablement, la majorité qui s'est dégagée d'ailleurs, puisque le 49-3 qui a été appliqué, fait apparaître une majorité. Il y a une majorité de l'Assemblée nationale qui accepte le gouvernement comme il est. Donc, qui a indirectement donné sa confiance au gouvernement. Et cette majorité comprend le parti de Macron, les centristes et une fraction du Parti républicain. Alors, ce n'est pas formalisé parce que le Parti républicain n'est pas organisé et qu'il n'a pas une véritable unité. Et que la politique française, non seulement se complique par cette espèce d'absolu de la gauche et de la droite avec l'hétérogénéité de l'une et de l'autre, mais par-dessus le marché, les hommes politiques ne pensent qu'à l'élection présidentielle. Et ne penser qu'à l'élection présidentielle en termes individuels aboutit à des comportements qui fractionnent les partis. Il est bien évident que le Parti républicain, actuellement, est dans l'attente d'un leader présidentiel. Et dans l'attente d'un leader présidentiel, comme il y en a plusieurs, il est évidemment divisé.
Commentaire sur Radio Classique.
Nous sommes avec Gérard Grimbert, qui est directeur du site Telos. Gérard Grimbert, avec lequel nous essayons de comprendre un peu mieux la situation française. Il y a un sujet sur lequel je voulais revenir aussi, Gérard Grimbert, c'est que l'on a entendu, par exemple, je le cite, mais il n'est pas le seul sur ce créneau, Pierre Rosanvallon, qui était un des théoriciens de la deuxième gauche, et donc qui avait poussé très loin l'analyse de la démocratie représentative. On l'a entendu nous expliquer que la démocratie représentative n'est plus nécessairement légitime, qu'il faut aujourd'hui intégrer la légitimité du peuple. En quoi cette distinction est-elle utile, Gérard Grimbert? Est-elle la réalité? Moi, je pense que l'opposition entre pays réel, pays légal, c'est un peu cela que l'on nous explique, vient de Charles Maurras. Donc, est-ce que tout d'un coup, le logiciel de ceux qui étaient hier la deuxième gauche a changé à ce point, Gérard Grimbert?
Oui, mais d'abord cela montre une chose qu'on savait depuis longtemps. Hein. D'ailleurs, Rosanvallon, il y a 50 ans, était un des intellectuels du PSU qui développait des arguments sur ce que devait être la nouvelle gauche. Ce qui est certain aujourd'hui, c'est que pas seulement Rosanvallon, beaucoup, je trouve, à gauche en particulier, attaquent d'une certaine façon, et même quelquefois frontalement, le gouvernement représentatif, en essayant de montrer que, au fond, les députés ne sont plus ne représentent plus le peuple. Le peuple doit se représenter lui-même d'une certaine façon, parce que le peuple, les représentants ne peuvent plus représenter. Alors, on vient de parler de la crise effectivement des partis politiques. Je ne crois pas que ce soit une crise du gouvernement représentatif en tant que tel, en tant qu'institution. Je crois que c'est une crise, on vient de le dire, de la manière dont fonctionnent les partis politiques aujourd'hui, ce qu'ils sont et comment ils fonctionnent, très bien, mais je pense que et c'est pour ça que je suis très critique à l'égard de Rosanvallon, tout ce qui amène à critiquer en tant que tel le gouvernement représentatif parce qu'il ne serait plus à la mode, enfin, aujourd'hui la démocratie fonctionnerait de telle façon qu'on ne peut plus seulement confier à des représentants élus le pouvoir de faire la loi. Je crois que c'est extrêmement dangereux parce que au fond aujourd'hui on voit bien que sur la surface du globe il y a soit des gouvernements représentatifs, les seuls d'ailleurs qui défendent la liberté, disons les choses comme elles sont, et qui essayent quand même de faire en sorte que le gouvernement puisse gouverner dans les pays en question, et puis d'autre part les gouvernements autoritaires. Et entre les deux, je ne sais pas ce que Pierre Rosanvallon ou ses amis nous mettraient exactement comme nouveau type de régime politique. Mais il faut toujours se méfier. Ceux qui parlent au nom du peuple, on ne sait pas après ce qui se passe quand on s'aperçoit que le peuple, évidemment, à lui tout seul, ne peut pas ni gouverner ni légiférer.
Avant que Jean-Claude Casanova ne vous réponde, juste une petite précision. Le PSU, c'était le Parti Socialiste Unifié. C'était un petit parti qui était, au fond, une sorte de laboratoire d'idées de la gauche situé entre l'extrême gauche communiste et le Parti Socialiste, qui a notamment vu éclore Michel Rocard, par exemple. Et c'est un parti qui ensuite, ça faisait d'ailleurs beaucoup sourire et beaucoup rire François Mitterrand, s'était rangé à l'idée de l'autogestion.
L'autogestion, voilà.
Mitterrand aimait à dire que, s'agissant de Michel Rocard, que vous savez, quand on a cru à l'autogestion, point de suspension. Jean-Claude Casanova.
Oui, Mitterrand avait dit, quand on croit à l'autogestion yougoslave, on peut croire n'importe quoi. Mais le problème est un problème classique de critique du régime représentatif. Et la critique du régime représentatif, elle a été faite aussi bien à droite qu'à gauche par ceux qui n'acceptent pas les institutions comme elles sont. C'est-à-dire que le peuple est souverain, mais il est souverain de deux façons, en élisant ses représentants et lorsqu'il vote au référendum. Et le pouvoir politique appartient aux représentants, c'est-à-dire aux assemblées, et au président de la République dans la Constitution française. Et invoquer une légitimité extérieure à la légitimité des représentants et du président de la République, c'est chercher à réduire le pouvoir exécutif pour obtenir une politique différente. Il ne faut pas se masquer que derrière ces controverses idéologiques, il y a un combat. C'est-à-dire que un grand nombre de gens ne sont pas satisfaits de la politique des équilibres financiers qu'a choisi le président Macron pour sa politique des retraites et veulent le faire changer d'avis. Pour le faire changer d'avis, ils invoquent les manifestations populaires et les petits mouvements de grève. On constate qu'il n'y a pas eu de très grandes grèves, les manifestations importantes et les sondages d'opinion. Mais on ne peut pas fonder un régime politique sur les sondages d'opinion et sur les manifestations. Ce que l'on peut dire, c'est que les représentants élus doivent, en élaborant leur politique, tenir compte, s'informer par les manifestations et éventuellement prendre des politiques conforme ou pas conforme aux manifestations. Mais le pouvoir politique ne peut appartenir en démocratie que ceux qui sont élus. Et alors, bien évidemment, on n'est pas élu tous les jours. On peut pas faire une élection tous les jours. Mais dans la sélection, dans l'élection, il y a d'abord une sélection, puisqu'on choisit. Donc, il est vraisemblable que si on choisit, on choisit les meilleurs, que la majorité a choisi les meilleurs. Ensuite, ceux qui sont choisis s'informent, étudient, délibèrent, et que c'est à partir de l'information, de la délibération, de l'expérience des élus que se forme la décision politique. Et il n'est écrit nulle part que la décision politique doit être conforme à ce que disent les gens dans la rue ou à ce que disent les sondages d'opinion. Non, souvent d'ailleurs, les sondages d'opinion sont des questions qui téléguident des réponses. Et puis on se garde de faire des sondages d'opinion. Personne, par exemple, la gauche hurle sur les retraites, mais si on faisait un sondage sur l'immigration, je serais très étonné que la gauche soit très enthousiaste du résultat qu'on obtient.
Par ailleurs, cette idée qui est dominante aujourd'hui, que nous serions mal représentés, conduit le gouvernement et les oppositions, mais surtout le gouvernement en l'espèce maintenant, à chercher des voies différentes de participation des citoyens à l'élaboration de la décision. Ce sont ces assemblées réunies sur la base de tirage au sort. Vous savez, il y a une convention récente sur la fin de vie, mais il y en avait une auparavant sur le climat. Comment vous regardez ces initiatives, Gérard Grimbert? Est-ce qu'elles vont dans le bon sens? C'est ce que Ségolène Royal avait appelé la démocratie participative. Est-ce que c'est dans cette direction qu'il faut chercher? Ou bien on se trompe d'analyse, Gérard Grimbert?
C'est-à-dire que le problème de ces conventions, c'est que on n'est pas au clair exactement sur ce qu'elles sont, leur statut dans l'ensemble de dispositifs institutionnels. S'il s'agit simplement de réunir tirage au sort ou d'un autre moyen de désignation des participants à ces conventions, si on leur demande, ce qui est d'ailleurs intéressant, de développer un processus qui ressemble à un processus délibératif où les gens finissent par comprendre ce qui se passe, comprendre le problème, s'informer, réfléchir, discuter ensemble, pourquoi pas, et voir ce qui se passe. Moi, je n'ai rien contre, bien au contraire. Le problème, c'est que ceux qui ont lancé ça, et Macron d'ailleurs lui-même, au départ, lui-même, en a fait un élément même du dispositif institutionnel, en disant ce qu'ils nous proposeront directement, on ira l'appliquer, ou on en fera une loi, etc. Et ça, c'était profondément négatif, Parce que d'abord parce que le pouvoir parlementaire s'est ému, et on peut le comprendre, et ça n'a pas arrangé les relations entre en particulier le Sénat et puis le président de la République. Et puis aussi parce que du coup, il y avait une indétermination sur quel était le statut exact de ceux qui étaient qui participaient à ces jours, qui avaient d'une certaine façon le statut de pseudo-législateurs. Même on nous proposait de dire, ben on va mettre moitié, je crois que c'est Thierry Pêche qui avait proposé ça, on va mettre moitié de parlementaires dans des commissions particulières et moitié des gens qui auront été dans ces assemblées dans ces conventions citoyennes pour préparer la loi. Et là, on dérapait dans la mesure où véritablement on mettait, à mon avis, en cause et gravement le système représentatif.
Et des pseudo-experts autoproclamés.
Exactement, exactement.
Les experts qui aujourd'hui sont sollicités de toutes parts. Hein. Il y a aujourd'hui beaucoup d'experts militaires. Hier, il y avait beaucoup d'experts médicaux. On voit bien que les médias aussi cherchent de ce côté-là. Quelques mots avant de se séparer, Gérard Grimbert, sur la gauche. On voit réapparaître ou commencer d'apparaître quelques tentatives, notamment autour de l'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve, de réarmer au moins intellectuellement ou sur le plan des idées. La gauche dite réformiste, la gauche, alors même que cette gauche réformiste est en fait incarnée aujourd'hui dans le pays par Laurent Berger. Comment regardez-vous cela, Gérard Grimbert ?
De deux manières. La première, c'est que je crois que la gauche, pour des raisons qu'on peut très bien comprendre, est aujourd'hui vraiment engagée dans un processus de sinistrisme. Elle en a connu beaucoup dans son histoire, c'est-à-dire, au fond, de radicalisation. Et je pense pas que ce processus pourra être arrêté rapidement pour une raison assez simple, qui est arrivée là encore une fois plusieurs fois dans l'histoire, c'est que le Parti socialiste aujourd'hui n'est plus en état de représenter une alternative politique d'un côté, et n'est plus non plus en état d'avoir un ensemble électoral suffisamment important. Donc il ne peut pas incarner une alternative, et donc le mouvement vers la radicalisation va continuer. D'autre part, pour que quelque chose réémerge dans le Parti socialiste qui serait à nouveau réformiste ou pseudo-réformiste, il faudrait qu'il y ait une stratégie. Or, ce qui me frappe lorsque, par exemple, Monsieur Cazeneuve nous dit que il est contre la NUPES, très bien, quelle stratégie alternative ? Tant que ce sera pas comme en Allemagne, tant qu'il y aura pas un dirigeant socialiste qui dira, mais il n'est pas scandaleux de notre part de chercher même pas à droite, mais des alliances au centre. Mais le seul fait de discuter avec les macronistes, c'est quelque chose d'abominable. Alors je ne dis pas que Macron s'y est bien pris aussi de son côté dans cette affaire. N'empêche que cette gauche soi-disant réformiste, ou qui pourrait être réformiste, n'est pas prête à adopter une stratégie politique qui lui permettrait d'exister. Or, et là, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure quand on parlait de LR, parce que finalement, pour les Républicains et pour le PS, à mon avis, le problème est absolument le même. Il faut pas commencer aujourd'hui qui sont maintenant des petits partis. Ces petits partis doivent cesser d'être dans cette idée de la Ve République qu'il faut d'abord avoir un candidat à l'élection présidentielle, parce qu'ils ne sont pas capables d'arriver au second tour de l'élection présidentielle, quel que soit le candidat qu'ils auront. Donc il faut qu'ils raisonnent en termes parlementaires. Et pour ces partis de la Ve République, puisque finalement le PS était quasiment devenu un parti de la Ve République dans toutes ces années, eh bien il y a beaucoup de difficultés à se dire nous sommes d'abord des partis politiques, nous ne sommes pas d'abord des écuries présidentielles.
Voilà, et en même temps, on sait qu'on vit une période de personnalisation maximum de la vie publique, et que par ailleurs, les Français sont attachés par-dessus tout à l'élection du président de la République au suffrage universel. On va devoir s'arrêter là, à moins que Jean-Claude ne veuille un mot de conclusion.
Non, très simplement, c'est qu'entre M. Mélenchon et Mme Le Pen, il n'y a qu'une seule place.
Absolument, et malheureusement, il y aura probablement plusieurs candidats, donc on va avoir du mal à échapper à ce face-à-face. Merci en tout cas Gérard Grimbert. Je rappelle que vous êtes directeur du site Telos et que vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir prêté attention aujourd'hui. Jean-Claude Cazeneuve et moi-même, nous vous souhaitons un bon week-end et nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour une autre édition de Commentaires.